plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Plan large, l'encyclopédie vivante du cinéma. Aujourd'hui, B comme Boorman, John Boorman, le romantique ironiste, avec Michel Simon et Entebbin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. Faire du cinéma, a dit un jour John Boorman, c'est convertir de l'argent en lumière et chacun espère que cette lumière sur l'écran produira en retour de l'argent. Cela n'est pas très éloigné du mythe qui représente une tentative pour s'échapper du monde matériel afin d'atteindre le domaine spirituel. Au cinéma, de même, nous utilisons toutes les ressources de la société technologique et industrielle pour créer un rêve, un faisceau lumineux qui projeté sur un mur contiendra un peu de notre esprit. En 50 ans de carrière et 17 longs métrages, John Boorman a signé une œuvre résolument tournée vers le grand public et pourtant aussi personnelle que cohérente derrière l'apparente diversité de sa relecture et distorsion des conventions des genres classiques, le film noir, la science-fiction, l'horreur, les films de guerre, d'aventure, survival, néo-western, saga historique ou encore espionnage auxquels s'est adonné le grand cinéphile qu'il est qui a toujours travaillé à l'intérieur du système pour mieux en repousser les limites. Avec un sens visuel extrêmement frappant, une utilisation picturale et émotionnelle des couleurs, ce romantique ironiste et peintre des faux-semblants, de la capacité de l'homme à s'auto-illusionner, l'auteur du point de non-retour et de délivrance, d'Excalibur et de la forêt d'émeraude, cinéaste alternativement insulaire et voyageur aventurier, épris dès l'enfance des récits arthuriens et emprunt de la pensée de Carl Gustav Jung, livre des fables violentes et lyriques en forme de quête aussi épique que spirituelle qui, même située dans le passé, décrypte le monde contemporain et son ordre souterrain dans une dialectique où s'affrontent stylisation et réalisme apparent, culture et nature, réel et imaginaire, raison et pensée mythique. Réflexion sur le cinéma aussi, peuplée d'observateurs voyeurs et de magiciens manipulateurs, autant de figures du cinéaste à l'intérieur de ses films. L'œuvre de John Boorman a son grand exégète en France, c'est Michel Simon dont sort en librairie l'édition définitive de sa somme Boorman, un visionnaire en son temps et il est notre invité aujourd'hui. Face à lui, le très anglophile Entebbin qui néanmoins, en fin d'émission, évoquera quelques films très éclectiques d'un cinéaste italien Luigi Comencini. Mais pour l'heure, tout commence avec un homme qui marche. Séance déjà extrêmement frappante du deuxième long métrage de John Boorman. On est en 1967, c'est le point de non-retour. C'est son premier film tourné aux États-Unis après Sauf qui peut, qui avait été tourné en Angleterre, après des débuts à la télévision, comme beaucoup de cinéastes de sa génération. Séquence donc où éclate déjà son audace, son sens du son, mais du montage. Un homme marche dans un long couloir, c'est Lee Marvin, et le son de ses pas semble résonner jusqu'à une maison où s'apprête une femme. L'homme fait irruption chez elle et il décharge son revolver sur un lit qui est vide. C'est avec ce film, vous le rappelez Michel Simon dans le préambule de votre livre, que vous avez découvert dans une salle de projection de la MGM dans le 9e arrondissement de Paris. C'était au printemps 1968, celui qui va être un de vos cinéastes de chevet. Et vous écrivez dans votre livre, immédiatement, dès les premiers plans, révélation pour vous, révélation d'un pouvoir visuel étonnant, je vous cite, choc d'images à la fois concrètes et oniriques qui ne devaient pas se démentir pendant 1h30.
Oui, j'étais jeune critique, j'étais à Positif depuis 2-3 ans. On nous a convoqués pour aller voir un film en projection et tout ce qu'on nous a dit, c'est que c'était un film de John Boorman, ce qui ne nous disait strictement rien puisque son premier film était inédit en France. Et avec Lee Marvin, qui par contre nous sollicitait beaucoup puisque c'était, il était au sommet de sa réputation. Et donc, on est allé à plusieurs voir ce film et on a été absolument stupéfaits. On s'est demandé, mais qui est ce cinéaste anglais qui rivalise en violence avec les cinéastes américains, mais qui introduit des nouveautés formelles. On voyait peut-être l'influence d'Alain Resnais, par exemple, sur des images mentales. Et voilà. Et ensuite, évidemment, on était très aux aguets et on suivit, Duel dans le Pacifique, ce film encore avec Lee Marvin et Toshiro Mifune, deux acteurs qui ne se comprennent pas pendant une heure et demie sur une atoll du Pacifique. C'était également un pari tout à fait incroyable et une fable. Puis il y a eu Léo The Last, peut-être un de ses tout meilleur film, qui a eu le prix de la mise en scène bientôt à Cannes, et qui était également puis Délivrance. Donc c'était vraiment une révélation pour nous parmi les grands cinéastes de l'époque, un peu avant Scorsese, à peu près en même temps que Coppola, il faisait partie de ces grandes révélations, sauf que c'était un étranger.
Voilà, c'est précisément ce regard étranger sur l'Amérique qui va beaucoup frapper, hein, cette Amérique complètement déshumanisée, l'architecture froide, comme un cauchemar. Il va vous dire, il voulait un monde dur, froid et situé d'une certaine façon dans le futur, mais il vous dit aussi dans les nombreux entretiens qu'ils sont dans votre livre, qu'il considérait ce film, et même a posteriori, comme un documentaire sur Lee Marvin. Alors sur Lee Marvin à la fois l'homme et sur la figure qu'il était. Il sort tout droit de À bout portant de Don Siegel, par exemple. C'est la machine à tuer. Sauf qu'à bien y regarder dans ce film, c'est quelqu'un, on a l'impression qu'il a massacré tout le monde,
il ne tue personne. Voilà, oui, mais d'abord, c'était un documentaire sur Lee Marvin, parce que lui-même, Lee Marvin, avait vécu la guerre du Pacifique, il avait fait la Deuxième Guerre mondiale, il avait été traumatisé par les choses qu'il avait été amené à faire et par ce qu'il voyait autour de lui. Donc d'une certaine façon, il a vécu ce rôle aussi comme quelqu'un de traumatisé et de traumatisant. Et donc, de certaine façon, quand il dit documentaire, aussi, il sait de quoi il parle, puisque Boorman a commencé par le documentaire. Ça a été un des très remarquables documentaristes à la télévision. Il était à Bristol. À l'époque, c'était éclaté, la télévision britannique. Et il a tourné des films. En particulier, j'ai pu les voir, il y avait une rétrospective à La Rochelle il y a très très longtemps. Par exemple, Citizen 63, Citoyen 63, c'était 6 portraits, dont 3 étaient réalisés par lui, où il suivait, par exemple, une jeune lycéenne, du matin au soir, dans son lycée, dans sa famille, etc. Et puis ensuite, il y avait The Newcomers, qui était une série de 6 épisodes d'une heure, où il avait filmé un couple de Bristol, l'accouchement de la femme, une soirée avec des amis, etc., entremêlée avec des vues de la ville, etc. Donc c'était des documentaires extrêmement originaux, mais il s'est rendu compte qu'il y avait une limite au documentaire, c'est-à-dire le documentaire, quand il s'est rendu compte que la jeune fille, quand ça passait à la télévision, ses camarades commençaient à se moquer d'elle au lycée, qu'il ne pouvait pas dire certaines choses parce que c'était touché à son intimité, eh bien il s'est rendu compte qu'il devait passer à autre chose où il pourrait approfondir la connaissance des gens par la fiction, ce que le documentaire ne lui permettait pas. Voilà. Donc je pense que l'œuvre de Boorman, elle se situe justement entre le réalisme qui vient du documentaire, et c'est pour ça que le sous-titre de mon livre, c'est
Un visionnaire
en son temps, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a d'une part le côté visionnaire, c'est un homme onirique, comme vous l'avez dit, et puis en même temps, en son temps, c'est-à-dire que la plupart de ses films parlent de la société, de notre société en général, soit des problèmes très généraux comme dans Léo The Last, avec les pauvres et les riches, l'exploitation, etc., ou alors des aspects particuliers, l'Amérique centrale, dans le Tailleur de Panama, ou d'autres films. Mais il parle toujours du présent, ou bien l'Afrique du Sud, dans In My Country, avec Juliette Binoche, qui est un film sur les procès de réhabilitation en Afrique du Sud.
How the words go. What's happening? I don't get it.
He's asleep.
Oh, yes. Rest. Plenty of rest.
What's wrong exactly?
Oh, malaise.
Malaise. Is he going to die?
Eventually.
Aren't we all?
Aren't we all?
Watching birds, trying to remember his song.
Very strange.
I don't get it. What kind of movie is this anyway?
Let me explain.
Trying to connect you.
He feels nothing.
Prepare a face to meet the faces that you meet.
Who are those people?
I'll tell you. That's David.
Ah, Leo.
Leo's doctor.
Bless you.
Thank you.
Making fine progress, are we? Good, that's it.
Max, the family lawyer.
Everything's in hand, Leo. Not to worry. Just a few legal ends to be tied up.
You can rely on me, as your father did.
Laszlo, estate manager, arch-patriot.
You can depend on me.
Margaret, determined to marry Leo at any cost, as long as he's paying. Hilda.
Better soon.
Leo's nanny.
The doctor.
The lawyer.
The patriot.
The nanny.
The bitch.
They've been reading the will. Now do you see?
Oh.
I guess so.
Oh, yeah.
Entendre cette bande-son, on se rend compte à nouveau du caractère profondément expérimental du travail de John Boorman. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est Leo the Last, prix de la mise en scène au Festival de Cannes, avec cette utilisation, voilà, comme ça, des voix. Alors, il y a à la fois des voix off, des présentations de personnages du film, et puis aussi des voix de spectateurs qui se demandent, mais qu'est-ce que c'est que ce film? On n'y comprend rien. Attends, je vais t'expliquer, dit une voix off. Donc, bande-son inspirée du travail de Luciano Berio, hein, sur ce mélange comme ça. Je crois qu'il y a sept langues différentes dans ce film, dit-il. C'est un premier échec commercial, il faut le dire, pour John Boorman. Ça explique peut-être que le film soit indisponible en France, qui est quand même assez lamentable, parce que c'est un film
formidable. Il n'est pas disponible en Amérique ni en Angleterre. Il y a une version en Espagne, donc version originale, sous-titrée espagnole, mais ceux qui connaissent l'anglais, ils peuvent acheter en Espagne, si c'est encore disponible, Leo the Last.
C'est un film extrêmement ambitieux. Vous dites même que ça ne s'est plus abouti dans votre livre, Michel Sénat.
Moi, je pense que c'est un chef-d'œuvre et un film, effectivement, d'une totale originalité, mais qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui. C'est évident, il a bénéficié de l'époque, c'est-à-dire c'était effectivement le nouveau cinéma américain à Hollywood. Le film est anglais, mais c'est des producteurs américains.
Avec
Marcello Mastroianni, qui d'ailleurs, que j'ai rencontré, que j'ai interviewé pour ce livre, et Mastroianni, il disait que c'était un de ses meilleurs rôles. Il était très, très heureux de travailler avec Boorman, mais je pense que ce genre d'ambition, c'était aussi l'époque des films de Coppola, La Conversation, c'était les films de Scorsese, Mean Streets, etc. On n'en est plus là du tout aujourd'hui.
Alors, je l'ai dit en introduction, John Boorman est quelqu'un qui va beaucoup au cinéma, qui est très cinéphile, qui est passionné par Griffith, et avec ce film, on a le sentiment aussi, Ntebin, qu'il retourne aux sources du cinéma. Il y a une utilisation de la couleur comme si c'était un film en noir et blanc, il a fait repeindre les murs en noir, de même que dans Le Point de Non-Retour, il avait utilisé le monochrome, comme ça, il y a quelque chose de très pictural chez lui, comme je le disais tout à l'heure, mais qui est là pour retranscrire presque un état d'âme, l'âme d'un personnage.
Mais il y a une chose qu'il explique très bien concernant Leo the Last, c'est que c'est un film qui peut se recevoir soit intellectuellement avec des tas de références dans chaque séquence, ou soit émotionnellement, comme un spectateur. Voilà, c'est vrai que c'est un film étrange. Moi, ce qui me frappe, c'est quand je vois ce livre, on se dit, par exemple, on va revoir un film de Boorman. Moi, pour cette émission, j'ai revu Le Point de Non-Retour. Ensuite, donc, on se précipite sur le livre pour avoir l'analyse de Michel Simon, et puis aussi tous les propos de Boorman. Puis la seule chose qu'on a envie de faire une fois qu'on a lu tout ça, c'est de revoir le film aussitôt. Alors, il y a les films très grand public de Boorman, ou des films de genre, et puis il y a les films complètement atypiques, comme justement Leo the Last, il y en a eu plusieurs comme ça au fil de sa carrière, qui demandent à être décryptés. Et c'est aussi ce que fait Boorman lui-même, en donnant quelques clés, en n'expliquant jamais tout. Et mais surtout en donnant quelques clés sur la manière dont il a tourné les films. Par exemple, il a trouvé les décors, ce qu'il a fait avec son chef opérateur, comment il a fait les repérages, etc. Et tout ça nous éclaire en fait sur le sens du film. C'est pour ça que c'est quelqu'un d'assez fascinant. Il faut faire connaissance avec Borman. Je crois que dans les conversations qu'on a eues avec Michel sur le livre qu'on a fait ensemble, Michel disait je n'ai jamais rencontré de cinéaste qui soit aussi complet. C'est un être humain complet.
Oui, c'est certainement de tous les grands cinéastes que j'ai pu fréquenter, sur lesquels j'ai pu écrire, c'est l'homme qui me paraît le plus complet. Par exemple, Kubrick était un génie évident. Je dirais pas que c'est un homme complet. Borman, il a une maison en Irlande, en pleine campagne. Il plante 10 000 arbres. Il a 7 enfants. C'est un père de famille. Il s'intéresse à la politique de façon très très aiguë. Il fait du cheval. Je veux dire, c'est quelqu'un il a une grande culture. En même temps, un manuel. C'est vraiment un homme. Je pense que j'ai pas rencontré un cinéaste aussi complet que lui. De certaine façon, il est fidèle en amitié. Il a un sens de l'humour formidable. C'est très rare de trouver toutes ces qualités à l'intérieur d'une seule personne.
Et c'est aussi un cinéaste avec de multiples obsessions qu'on va décliner dans cette émission, et dont une figure qu'on voit apparaître de manière très frappante dans Leo the Last, mais on le voyait déjà dans Le Point de non-retour avec Walker observant à la longue vue, c'est le voyeur, c'est le regardeur. Il y a très souvent des personnages avec des appareils optiques. C'est le cas de Léo qui regarde avec des jumelles, avec des longues vues, ce qui se passe chez ses voisins en face.
Oui, en cela, on pourrait le relier à Fritz Lang, par exemple. C'est vrai que c'est une œuvre qui est marquée par l'importance du regard. Et d'ailleurs, il l'a prouvé par ce côté très visuel de ses films. C'est un homme qui est très, très, on a l'impression qu'il cadre le monde en permanence. Et puis, dans Léo de Lass, il y a tout de même ce thème très important, qui est le thème arthurien, qui est le thème, dans son enfance, il jouait avec des petits soldats. Il faisait les chevaliers de la table ronde. D'ailleurs, il le montre dans Hope and Glory, qui est un film autobiographique. Et là, on a affaire à Léo qui descend d'une grande famille aristocratique à Londres, qui possède des immeubles, mais il ne le sait pas vraiment. C'est une sorte de personnage un peu isolé, mais stérile. C'est-à-dire, c'est le roi Arthur. C'est le thème de la stérilité qu'il reprend dans Zardoz, par exemple, où quand on est immortel, eh bien, on devient stérile. C'est-à-dire que la mort est nécessaire pour être en vie. Et dans Léo de Lass, on voit cet homme qui est complètement sans aspiration, qui regarde avec des jumelles, qui est un voyeur, comme vous le dites. Et c'est le thème arthurien qu'on retrouve dans tous ses films. Et face à lui, il y a ces immeubles qui sont habités par des Noirs, des Jamaïcains, qui sont exploités sans qu'il le sache, qui sont exploités par des majordomes, par des hommes qu'il a engagés et qui exploitent ces Noirs. Et on voit ce personnage qui finalement va renaître à la vie en devenant solidaire de ce tiers-monde qui est sous ses yeux.
Il y a un thème qu'on va retrouver beaucoup dès Léo the Last, avec ces scènes de bain collectif complètement improbables, avec ces chairs tremblantes et dénudées, filmées sous l'eau, c'est le thème de l'eau.
Good. Let's get ahead. Good. Hell, here's a big one.
Vous écoutez France Culture, plan large sur John Boorman avec Michel Simon et Entebbe. Évidemment, on aurait pu vous faire entendre un air fameux, ce duo de guitare et de banjo, mais d'abord, on l'a déjà diffusé dans plan large. C'était il y a 2 ans quand vous étiez venu déjà. Michel Simon nous parlait de John Boorman. C'était à l'occasion de la sortie de ses mémoires, aventures et puis de son premier roman, Tapis écarlate. Et puis c'est aussi parce que on avait envie d'entendre un peu cette eau qui est si importante pour le cinéaste. C'est bien sûr Délivrance en 1972. Un tournant pour John Boorman, d'abord parce que c'est son premier grand succès, le premier film où il apparaît comme producteur également. Alors tout se passe bien pour l'instant dans cette première descente en canoë d'une rivière torrentueuse de Georgie, promise à la disparition parce qu'il va y avoir un barrage qui va l'inonder. Un groupe d'amis emmené par un homme très viril, Lewis, joué par Burt Reynolds. Et puis évidemment après, ça va un peu se gâter pour eux. C'est le plus terrifiant sans doute des films de John Boorman, et c'est aussi le plus critique sur les États-Unis et sur ses mythes fondateurs. C'est une réévaluation des mythes de l'Amérique, vous dit Boorman, et il vous dit aussi que c'est un voyage dans le temps, dans le passé de l'Amérique. Michel Simon.
Oui, c'est un film effectivement très narratif, plus narratif qu'aucun des films de Boorman, et c'est d'ailleurs son plus grand succès. C'est aussi un film qui est un peu une critique de l'écologie. Enfin, Boorman est très écologique puisqu'il vit dans des conditions vraiment très naturelles. Mais enfin, ce qu'il nous montre, c'est que la nature, elle est bifronce, elle est double. La nature, effectivement, peut être une consolation pour l'homme et un moment de recueillement et de vie. Et aussi, elle peut être extrêmement hostile et cruelle. Et c'est un peu ce qui se passe avec ces 4 citadins qui viennent un peu violer finalement le territoire et qui vont être à leur tour. Je raconte pas tout, mais beaucoup de gens l'ont vu.
Il est assez connu, ce film.
Ils vont être violés. Un d'entre eux va être violé. Et avec des hillbillies, des paysans un peu demeurés qui peuplent cette nature. Donc c'est toujours la complexité de la pensée de Boorman. C'est-à-dire, il ne voit jamais les choses de façon manichéenne. Il y a toujours une dialectique qui s'opère. Et Délivrance, évidemment, c'est ce qui frappe dans le film. C'est incroyable sens de la nature qu'on retrouve d'ailleurs dans Duel dans le Pacifique, on retrouve dans beaucoup de ses films.
Le sens de l'espace aussi.
Le sens de l'espace.
Vous rapprochez d'un Anthony Mann et d'un Raoul Walsh.
Voilà, là il renoue avec le grand cinéma américain, et c'est vrai que c'est une réflexion sur la frontière, le grand thème de la culture américaine, mais une frontière qu'il ne faut pas franchir.
Et c'est pas exactement aussi dingue qu'un Werner Herzog, par exemple. Enfin, il y a quand même un peu de ça chez John Boorman quand il va tourner dans des lieux compliqués. C'est un cinéaste aventurier qui repousse toujours les limites. Ses collaborateurs racontent comme ça comment il va porter Bill Sterr qui vous dit qu'il porte tout jusqu'au point d'ébullition, et puis il filme les résultats. Et le tournage devient un élément même du film chez Boorman.
La différence avec Herzog, c'est qu'il met pas en danger les gens avec qui il tourne. C'est-à-dire, Herzog peut aller jusqu'au meurtre.
C'est certains de ses collaborateurs, mais il faut qu'il soit aussi dingue qu'un film au Sigmund, par exemple, pour aller lui-même dans les rapides
voilà, filmer. Mais Boorman fait attention tout de même à la vie de ses employés, des gens qui travaillent pour lui. Mais c'est vrai qu'ils ont tous les deux un sens cosmique incontestable.
Moi, ce qui me frappe en lisant ce que Boorman raconte de ses tournages, c'est que il y a un engagement physique. C'est pas uniquement quelqu'un qui a des idées et qui veut les mettre sur la pellicule, mais cet engagement physique stimule toute une équipe et, par exemple, va faire que les quatre vedettes de Délivrance vont refuser d'être doublés par des cascadeurs. Ils veulent faire des cascades. Le mot n'a jamais été aussi bien choisi, d'ailleurs. mais Boorman aussi, avec la caméra, il est sur un autre canot et puis il prend autant de risques. Donc, voilà, je pense que cet engagement se ressent quand on voit les films dans la mise en scène.
Now, my brother, I shall be king. Gods, knights, squires, prepare for battle.
Thank you.
scène très épique, évidemment, de ces chevaliers en armure qui partent à la guerre là, dans cette cavalcade et qui font refleurir la nature sur leur passage. C'est très étonnant. C'est la musique, c'est évidemment Carmina Burana de Karl Orff. Ça deviendra un peu un tube et un cliché du film Barbare après son utilisation par John Boorman dans Excalibur. On est en 1980. Après Délivrance, immense succès, Boorman a réalisé deux films qui auront un peu désarçonné son public. Cet étrange film de science-fiction qui est Zardoz, vous en parliez tout à l'heure, avec ce Sean Connery en slip rouge et puis le masque géant comme ça sur les hautes terres irlandaises. Il y a L'Hérétique, la suite de L'Exorciste, un film bien nommé parce que c'est complètement hérétique quant au canon du film d'horreur, du film gore. C'est plutôt une sorte de recherche mystique, poétique, comme ça, en Afrique, sur l'alliance entre la science et la magie. Et la magie est au cœur de l'œuvre de Boorman, comme la quête arthurienne, vous l'avez dit tout à l'heure, qui infuse tous ces films, mais au centre de ce film Excalibur, qui aurait dû s'appeler au départ Merlin Lives, Merlin est vivant, il y a la figure justement du magicien, du grand manipulateur, mais un peu erratique, un peu il est là, il est pas là, on comprend jamais trop ce qu'il fait, lui-même n'a pas trop l'air de tout maîtriser, Michel Simon.
Oui, alors il y a effectivement dans tous ces films, dès le point de non-retour, même avant, dès son premier film, il y a toujours un personnage étrange, un peu qui tire les ficelles, qui est un peu un manipulateur. Alors ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à Excalibur, et en ne comptant pas Excalibur, ce manipulateur est toujours négatif. Il est inquiétant, il est mauvais, il est castrateur, etc. Et à partir d'Excalibur, avec Merlin, on a un personnage. On va le retrouver, par exemple, dans L'Hérétique, c'est Kokumo. On va le retrouver aussi dans la forêt d'Emeraude, c'est dans la tribu indienne, c'est un sage de la tribu. On va trouver des personnages, au contraire, qui sont beaucoup plus bénéfiques, ce qui veut dire que le cinéma de Boorman va passer vers une sorte d'optimisme. Et en même temps que cet optimisme, on voit l'importance de plus en plus grande des personnages féminins, qui ne figurent pas beaucoup dans les premiers films de Boorman. Donc je pense que ça, c'est quelque chose de très important, ce personnage, comme vous l'avez dit, dans Excalibur, en particulier de Merlin, joué par Williamson, qui est aussi un grand humoriste.
Oui, mais il met comme ça toujours une petite distance, un peu camp, presque, on dirait, dedans. Voilà, c'est l'homme qui ne maîtrise pas tout. Et il y a aussi, moi, ça m'a beaucoup frappé. Ce film, je l'avais vu quand le jour de sa sortie, quasiment. J'étais un peu plus jeune que maintenant. J'avais été très emporté par ça. Et à le revoir aujourd'hui, il y a une distance aussi dans la manière qu'a Boorman de raconter cette histoire. Il condense quand même tout le mythe arthurien en 2h15, mais il le fait d'une façon complètement antinaturaliste. Il n'y a pas seulement de Carmina Burana, il y a évidemment toute la musique de Wagner, de Parsifal, du Crépuscule des Dieux, qui donne une dimension complètement opératique. Et il y a des scènes, on pense à la fin notamment, alors là on va pas non plus tout dévoiler, mais là c'est un film aussi beaucoup vu, il y a une scène de massacre final qui se fait dans un décor qui affiche son artificialité, une lune rouge, des lumières très opératiques, et je pense aussi au décor du château de Camelot ou de l'antre du dragon qui affiche le côté carton-pâte, on est presque à Bayreuth.
Alors je dois dire que je me vante un peu d'une influence que j'ai pu avoir sur Boorman. C'est-à-dire, je revenais de Bayreuth où j'avais été voir Le Ring, mis en scène par Chéroux et Boulez. Et j'avais dit à Boorman, vous devriez vraiment faire le voyage de Bayreuth l'année prochaine. Il est allé voir, et il a reconnu ensuite l'influence qu'a pu avoir la tétralogie de Chéroux sur Excalibur.
Moi, ce qui me frappe en revoyant Excalibur, c'est l'expressionnisme de Boorman, c'est-à-dire que le décor est une expression du mental des personnages, ce qui fait qu'il va soit utiliser la nature comme un studio en rééclairant la forêt amazonienne, soit il va reconstituer avec une sorte de folie la nature en studio, c'est ce qu'il fait dans L'Hérétique et puis aussi dans Excalibur, mais d'une manière totalement onirique, mais qui en même temps paraît très réaliste puisque elle correspond exactement à l'état d'esprit des personnages qui sont comme ça dans une sorte d'état second et ça va se transmettre au spectateur.
Recognize that tone? When they begin. The Piggies.
We used to sing so much before the war, did we? Not in the daytime, anyway.
Of music so tender. It brings back a night of tropical splendor.
Dawn's come on fast. That's the war for you. It brings quick.
A memory evergreen.
Didn't I see you with a soldier, Dawn?
Just doing my bit for the war effort.
I won't have this vulgar talk in my house.
It's only a joke, Mummy. I'm 15, I'm still at school. I want to be a nun when I grow up.
Come on, Grace. Give us a few bars of old Fred.
Come on, Mummy.
All
Mum.
No. Not now. They won't believe me.
Comment résister à la pression de la guerre, continuer à chanter dans une maison dévastée par le Blitz, continuer à faire sa tournée pour le facteur dans une rue devenue un véritable champ de ruines. C'est la guerre à 7 ans, le titre français de Hope and Glory en 1987, le film le plus intime de John Boorman, avec sa suite qu'il va tourner 17 ans plus tard, Queen and Country, un portrait autobiographique de l'enfance d'un cinéaste, et puis aussi une façon d'expliciter, peut-être de comprendre pour John Boorman, d'où viennent ces thèmes, d'où viennent ces obsessions qui irriguent toute sa filmographie, comme par exemple cette scène primitive pour lui d'un garçon qui suspecte sa mère d'entretenir une liaison adultère avec le meilleur ami de son père, pendant que le père, lui, il est alarmé et qu'on va retrouver dans quantité de trahisons féminines dans les films de John Boorman, Michel Simon.
Et qu'on retrouve dans Les Chevaliers de la Table Ronde, puisque Arthur
se fait trahir par Guenièvre avec Lancelot, dans Le Point de Non-Retour, Walker se fait trahir par sa femme pour
son meilleur ami. Dans tous ses films. Et ce que montre aussi Hope and Glory, c'est le gynécée dans lequel a été élevé Boorman. C'est-à-dire, c'est un homme, et il le dit lui-même, il y a eu un anniversaire où ils étaient 30, il n'y avait que des femmes, sauf lui et son fils. C'est-à-dire qu'il a toujours été entouré de femmes. C'est ce qu'on retrouve dans cet univers. Et puis aussi le côté anticonformiste, anticonventionnel de Boorman. C'est-à-dire qu'il ose montrer la vie d'un enfant qui ne se rend absolument pas compte des choses et qui remercie Hitler quand l'école est bombardée. Il dit « Thank you, Adolf ».
Oui, c'est voilà. Merveilleux pour un enfant.
Alors, c'est totalement immoral, évidemment, mais c'est la vision d'un enfant. Un enfant n'a pas conscience de choses. Et c'est comme ça qu'il a vécu la guerre. C'est-à-dire un moment où on allait piller les maisons, aller chercher des choses dans les ruines, etc. C'est très anticonformiste. C'est une vision de la guerre totalement originale.
Alors, ce qui est très frappant, c'est qu'il, dans l'entretien, deux entretiens d'ailleurs qu'il vous accorde sur ce film, parce qu'il y en a un où vous êtes allé sur le tournage à l'époque, et puis après il vous en parle une fois qu'il a vu les images qu'il a tournées, il se passe quelque chose pour lui, il se rend compte en voyant les images d'où viennent les fameuses obsessions dont on a parlé tout à l'heure, d'où vient l'eau parce qu'il s'est réfugié après l'incendie de sa maison sur les bords de la Tamise à Shepperton, les moments les plus merveilleux de sa vie, en barque, apprenant à manier une barque et à pêcher le poisson, vive les bombes aussi qui tuent les poissons quand elles tombent dans la rivière, d'où vient cette image de la maison en feu qu'on retrouve à la fin de Leo the Last. C'est un film presque qui fait office de psychanalyse pour lui.
Oui, et puis d'ailleurs, vous avez cité le feu, vous avez cité l'eau, on pourrait dire aussi la terre, l'air. C'est un cinéma cosmique, c'est-à-dire qu'il y a vraiment tous les éléments, comme on peut le trouver chez certains grands artistes, tous les éléments sont sollicités.
Thébine ?
Moi, il y a aussi un aspect de Boorman dont vous parlez, Michel, dans ce livre, et qui, je trouve, est exactement illustré par ce que vient de dire Antoine. C'est-à-dire que c'est le surréalisme. Et c'est-à-dire que Hope and Glory, c'est une sorte de suite, c'est une chronique, c'est une suite d'associations d'idées, Et puis, quand on met toutes ces idées les unes après les autres, on se rend compte, quand on voit le film, que ça forme un portrait, mais qui a été, voilà, qui est sorti intuitivement de l'artiste, et où on retrouve tous ces motifs qui peuvent, et chaque chose peut être interprétée à la lumière de toute son œuvre à venir, enfin, bah, alors que là, il était enfant.
Il y a aussi ce titre très ironique, Hope and Glory, parce qu'on a parlé de sa critique de la société américaine, mais la société anglaise en prend pour son grade également, et en particulier ce système de caste. Il vous raconte dans un des entretiens que son passage à la BBC l'a frappé parce qu'il était voilà, terrorisé par l'immobilisme et par le mépris qu'il pouvait y avoir dans cette maison, et on le retrouve notamment dans Hope and Glory. Il y a des scènes terribles de dans son école, par exemple, donc doctrine des enfants avec cette carte pink,
le rose qui représente toutes les colonies anglaises et le monde entier quasiment sous l'emprise de l'Angleterre, comme le dit le maître d'école. Oui, c'est vrai. Alors, quand c'est le cas de Lozay et de Pinter qui font des films très critiques sur l'Amérique, on a affaire à un Américain qui regarde l'Angleterre et à un Juif émigré qui est Pinter qui regarde aussi l'Angleterre de l'extérieur. Dans le cas de Bourman, c'est vraiment un pur Anglais qui a effectivement énormément souffert de venir d'une classe moyenne, et il est le fils d'un tenancier de pub, c'est pas du tout, et on lui a toujours fait sentir cela, c'est-à-dire il a fait une éducation sur le tas, il a commencé à travailler extrêmement jeune, il n'est pas passé par l'université, et je pense qu'il a ressenti ça profondément, et donc son film est très critique sur le système de classe, comme vous le disiez.
Que no estiguen a donde han escondido las flores que aromaron las calles, persiguiendo un destino, donde se han ido. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Y nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino. ¿Dónde se han ido?
Come on, Mickey.
You're a good man. Only good man left in Panama City are you.
Thanks,
Mickey. And me. That's all.
Okay, in you go.
You and me. He has heart, Mr. Cool. Heart.
Come on, then. Call it a night.
De pie o muerto.
Vous écoutez France Culture, plan large sur John Boorman avec Michel Simon et Ntebin. Alors on aurait pu terminer cette évocation du cinéma de Boorman par son dernier film, Queen and Country, la suite de Hope and Glory, un film après laquelle il a officiellement plus ou moins pris sa retraite de cinéaste à 81 ans, c'était en 2014. On aurait pu aussi écouter beaucoup d'autres extraits comme celui de ce film magnifique et The General, le général. Mais je voulais évoquer pour finir ce Tailleur de Panama de 2001 que moi j'aime beaucoup, une fable décapante sur un monde sans valeur, écrivez-vous, Michel Simon, l'adaptation tout à fait parfaite et avec son aide d'un roman de John le Carré qui déclarera à la presse allemande avant la présentation au Festival de Berlin, ce film nous l'avons fait au nez et à la barre de la Columbia comme deux voleurs dans la nuit, lorsqu'ils ont vu le produit final, ils ont été horrifié. Et John Boorman vous a raconté, effectivement, Michel Simon, que le studio hollywoodien ne sait pas trop quoi faire de ce film au moment où Boorman le lui livre. Il faut rappeler qu'on est à cette époque sous la présidence de George Bush Junior et que son père est un peu brocardé dans un moment dans le film.
Oui, alors, mais Boorman a toujours eu un rapport comme ça avec la production. Il a toujours été dérouté. Je me rappelle que Deliverance, par exemple, quand il a proposé le film terminé à la Warner a dit, ça n'aura aucun succès, il n'y a pas de femme dans le film. Et il leur a dit, mais excusez-moi, mais vous avez pas lu le scénario? Et c'est typique de l'industrie qui produit des films sur sans même savoir exactement ce qu'ils produisent. Et de la même façon, ils lui ont refusé l'argent pour la musique. Il fallait réduire le coût de Deliverance et il a dit bon ben on va prendre un duo de banjo et puis c'est tout. Et le duo de banjo a été un tel succès qu'il a rapporté plus d'argent que le film lui-même. Alors, dans le cas, effectivement, du Tailleur de Panama, il y a d'ailleurs un entretien que j'ai fait avec John Le Carré, où il parle longuement de sa collaboration avec Bourman. C'est vrai que c'est un film qui a peut-être pas du tout été vu à sa juste valeur, parce que c'est un film, une des adaptations les plus originales, les plus personnelles de John Le Carré.
Et c'est un jeu sur les faux-semblants, sur les vessies qu'on prend pour des lanternes, et même quand on vous dit, mais ce sont des vessies, on va continuer. Ah oui, mais ça nous arrange que ce soit des lanternes, quand même. Enfin, voilà, c'est un monde formidable à Panama. Panama, c'est Casablanca sans héros, hein, va dire le fameux Tailleur de Panama à un moment dans le film. Ce qui est très passionnant aussi, c'est l'utilisation, vous parlez de ces films sans femmes comme Délivrance, l'utilisation et le jeu que va faire Bourman avec la figure virile. On se souvient de ce qu'il a fait à Lee Marvin. Lee Marvin, voilà, qui ne tue personne et tout se passe par accident. Burt Reynolds, l'incarnation même de la virilité à l'époque de Délivrance, qui va se retrouver avec une jambe cassée. On peut parler de Sean Connery dans Zardoz, etc. Et ici, il va utiliser le Pierce Brosnan de James Bond, qui vient d'en sortir, pour le montrer à la fois comme arrogant, complètement
misogyne.
Misogyne, sauf que lui, ce qui l'intéresse, c'est la scène dans un nightclub gay, où il va le faire danser avec Geoffrey Rush.
Voilà, c'est les acteurs aiment beaucoup travailler avec Bourban, parce qu'effectivement, on a parlé de Mastroianni, de Marvin, etc., et la façon dont il utilise aussi Geoffrey Rush, qui est absolument merveilleux, qui est dans ce film, enfin qui est une sorte de tailleur, effectivement, qui se retrouve mêlé sans l'avoir voulu à toute une opération d'espionnage, etc. Et cette critique aussi de la virilité est une chose qui était assez déstabilisante, souvent pour le public des États-Unis.
Il y a aussi un principe du changement de registre permanent chez John Boorman, et ça c'est le cas dans tous ses films, dans Excalibur aussi, par exemple, ou dans Hope and Glories, et on ne sait jamais trop où s'installer, il me semble, N.T. Bean, chez John Boorman. Là où, au moment où on va être inquiet, tout d'un coup, il va désarçonner ça par de l'humour, au moment où on est ému, il va montrer une critique très forte de l'émotion même qu'on vient de ressortir.
Il faut dire que Shakespeare a tout de même imprégné tout l'art britannique. C'est chez Shakespeare qu'on trouve tout ce mélange permanent de bouffon et le tragique.
Mais moi, ce qui me frappe aussi dans ce que vous venez de dire, c'est que je pense que Bourman est un des cinéastes les plus éminemment modernes. C'est le cinéma moderne. C'est-à-dire qu'il va se ressourcer dans tous les mythes du cinéma classique ou les genres, et puis il les déconstruit, et puis il mélange les tons, et puis il fait ça d'une manière très systématique. Mais même dans sa façon de faire les films, il raconte d'une manière très savoureuse que la MGM voulait absolument pas qu'il fasse lui-même les repérages pour le point de non-retour, parce que syndicalement, il fallait que ce soit fait par une équipe qui est payée pour ça, etc. Et il prenait un malin plaisir à semer, enfin il y avait un convoi de voitures, il semait toute l'équipe pour aller faire ses repérages lui-même, et c'est ce qui a donné l'originalité du choix des décors, par exemple, dans ses films. C'est quelqu'un de très déterminé à faire comme il l'entend. Les films qu'il veut faire, il change de ville, ça c'est pas San Francisco, ce sera Los Angeles, parce qu'il veut une ville déshumanisée, etc. Et il fait ça dans le système, en utilisant le système, il le brise de l'intérieur, mais il fait la même chose des formes. Et il sait d'ailleurs beaucoup pour cela de la musique, hein. C'est un cinéaste très lyrique aussi. On a parlé d'opéra tout à l'heure, mais il a su conjuguer le lyrique et l'épique, ce qui est quand même assez rare au cinéma.
Et c'est là qu'on retrouve le Bourman visionnaire, parce qu'il vous le dit sur cette histoire de repérage des décors. Il peut pas regarder un décor sur un catalogue d'images fournies par le département décor. Il a une image dans la tête et il faut qu'il puisse la reconnaître dans la réalité.
Oui, je voudrais ajouter aussi une chose, c'est que à la fois c'est un cinéaste très ancré chez lui, en particulier en Irlande, qu'il a choisi de vivre au début des années 70 dans le comté Wicklow, où il a un ancien presbytère, il vit parmi les arbres, il vit parmi les fleuves, etc. Et en même temps, c'est un grand voyageur à la Stevenson, ou à la Kipling, ou à la Graham Greene. Il est très anglais aussi par là, c'est-à-dire qu'il va dans le monde entier pour tourner dans des conditions extrêmement difficiles, pour raconter des histoires romanesques, pleines de bruit et de fureur. Et ça, c'est cette dualité aussi, c'est-à-dire c'est le côté casanier et en même temps le côté aventurier.
Little people on the sidewalks.
Sidewalks.
Running down the avenues.
Avenues.
A outside in cafes.
Cafes.
We were looking for the muse.
For the muse.
Well, I was locked in by the system. Where no freedom is the root. Now I spend all my time.
All my time.
Just trying to make it understood.
Understood.
It once was my life.
Was my life.
That's what everybody said.
Everybody said.
How the things I used to do.
Used to do.
Yeah, the people that were friends.
That were friends.
I've got to make it mean something. At the end of the day. It once was my life.
Was my life.
They can't take that away.
That away.
Trials and tribulations. And stupidity still rules. Sometimes it looks like I'm on a ship of fools. It once was my life.
Merci Michel Simon. On close cette séquence John Boorman par la chanson du générique de fin du Général. It Once Was My Life par Van Morrison. Boorman, un visionnaire en son temps, édition définitive et publié chez Marest Éditeur, qui avait également sorti les mémoires de Boorman, Aventure, et son premier roman, Tapis Écarlate. Vous nous en aviez parlé, Michel, dans Plan Large. C'était le 30 septembre 2017 à vos podcasts. D'autres livres de cinéma paraissent, qui vous intéresseront certainement. Michel Simon, puisqu'il traite de certains de vos cinéastes de chevet. Elia Kazan, La confusion des sentiments, livre collectif dirigé par Jean-Michel Durafour et José Mour, vient de sortir aux presses universitaires de Provence dans la collection Art. Vous êtes évidemment abondamment cité, Michel, ainsi que la revue Positif dans la bibliographie. Livre collectif encore, Lee Chang-dong, premier ouvrage intéressé à l'immense cinéaste coréen que vous aimez beaucoup, Michel, dirigé par Véronique Bergen, Jean-Philippe Cazier et Antoine Coppola. C'est aux éditions d'Ivoire. Les auteurs et l'éditeur présenteront le livre le 2 novembre à 18h30 à la librairie Beaubourg. Et puis fin octobre, le 24, sortira aux éditions Capricci le dernier rêve de Stanley Kubrick, une enquête sur les coulisses de son ultime film Eyes Wide Shut, signé Axel Cadieux. Et puisque vous êtes là, Michel, avec Ntebin, pilier indispensable de la revue que vous dirigez, je ne manque pas de signaler le nouveau numéro de Positif avec Alice et le maire en couverture, le film de Nicolas Pariser qui fait un tabac en salle et on s'en réjouit. Et à l'intérieur, un dossier sur Mauro Bolognini, qui fera l'objet d'une rétrospective à la Cinémathèque française à partir du 31 octobre. Pour l'instant, ce sont des vampires qui hantent la maison d'Henri Langlois rue de Bercy. L'exposition qu'il aurait consacrée vient d'y ouvrir. Elle dure jusqu'au 19 janvier. Et les mauvais genres de François Angelier vous en propose une visite guidée ce soir à 22h sur France Culture. Nous y reviendrons aussi dans la dispute vendredi prochain. On ne finira pas sans évoquer la sortie directement en DVD. C'est très curieux, alors que le film est passionnant, du dernier Brian De Palma, Domino, une réflexion échevelée et très de palmienne pour le coup sur les images produites par le terrorisme islamiste. J'espère qu'on aura l'occasion d'y revenir dans une chronique. C'est chez Metropolitan Film Export en Blu-ray et en DVD. Mais puisqu'on en parle de DVD, il est temps d'entendre un peu de sicilien à la sauce milanaise.
Con vazzolato in mano e la
trois films de Luigi Comencini sortent ces jours-ci en DVD, pour l'un en Blu-ray, dans des versions restaurées. Trois films qui témoignent de l'éclectisme de leur auteur. Un conte féerique, une comédie policière bête, méchante et sarcastiquement drôle, et une fable ouvrière, à savoir Les Aventures de Pinocchio, avec Nino Manfredi en Geppetto et Gina Lollobrigida en Fée Bleue. Mais Qui a tué le chat, avec l'impayable duo Ugo Tognazzi et Mariangela Melato. Et Un vrai crime d'amour, Delitto d'amore, dont on vient d'entendre, dont on entend encore la musique de fin, dans la belle voix tragique de Rosa Balistreri. Et tragique, le film l'est complètement, Entebbe. Mais avant de nous en parler, vous pouvez nous resituer Luigi Comencini et la place qu'il prend dans le cinéma italien de l'après-guerre et du miracle économique.
Eh bien, Luigi Comencini, c'est un cinéaste paradoxal à bien des égards, c'est-à-dire qu'il est né en 1916. Il aurait très bien pu faire partie du mouvement néo-réaliste, vu son âge. Mais il va commencer sa carrière, après des études d'architecture, par le journalisme et la critique de cinéma. C'est un cinéphile très intense, et ça va d'ailleurs se retrouver dans la plupart de ses films, comme on va le voir. Et c'est quelqu'un qui qui se fait connaître par le documentaire. Un petit peu comme John Borman d'ailleurs, et notamment des documentaires sur des enfants. Et ça va imprimer évidemment aussi une grande marque à ses films les plus personnels. Et lorsqu'il débute, il a eu un début de carrière un petit peu problématique, avec des films qui marchent pas bien, des projets qui se font pas, etc. Puis tout d'un coup, il y a l'immense succès d'un des premier fleuron de la comédie italienne qui va après donner des chefs-d'œuvre dans les années 60 et 70. Mais là, on est au début des années 50. C'est Pain, amour et fantaisie, avec Vittorio De Sica. Un film que Comencini n'aime pas trop, mais enfin qui va lui permettre de réaliser des films plus personnels. Et il y a les deux veines qui vont se partager sa carrière. Il y a les films sur la famille et les enfants, et puis il y a les comédies, parfois très féroces, avec un regard très acéré sur et satirique sur la société italienne de son temps. Et puis il y a un autre goût qu'il a, le goût du romanesque et le goût du mélodrame, parce qu'il a toujours dit que pour faire passer des messages aux spectateurs, il fallait mieux s'adresser à sa sensibilité.
Un mélodrame, en voici un.
Ti sei mai chiesta perché mi chiamo Lullo e non Giovanni, Giuseppe, Pietro? C'è Sannullo?
Non lo so.
Non c'è, te lo dico io. Io mi chiamo così perché veniamo dall'anarchia. Mio fratello, mia sorella, io, non siamo battezzati, io non ho mai fatto la comunione, e così tutti bronzi. Se moriamo non viene il prete, arriva la bandiera rossa. Dunque al mio matrimonio l'acqua santa non ci può essere.
Ma perché tu credi che io lo faccio solo per la mia famiglia e per il vestito bianco? Ma io posso sposarmi anche con questo vestito qua, ma qui dentro. Se no non mi sentirò mai tua moglie.
Dite tutte così. Avete più paura della famiglia che dell'inferno.
Allora facciamo così. Ci sposiamo di nascosto in chiesa e diciamo a mia madre e a tuo padre che ci siamo sposati in municipio, così vedi se sono sincera.
Né di nascosto né con gli inviti. Mi dispiace. In municipio anche domani.
Possiamo restare fidanzati.
Bella soluzione.
Anche peccare tutte le sere. Anche da oggi. Tanto dopo c'è sempre il pentimento. Non mi lasciare.
Tu sais pourquoi je m'appelle Nullo, demande l'anarchiste milanais à la sicilienne Carmela, parce que dans la famille on est anarchiste, alors pas question qu'on se marie à l'église. Solution proposée par Carmela, on va se marier en secret à l'église et on dira à tout le monde qu'on s'est marié à la mairie, ou sinon on peut rester fiancé longtemps et pêcher tous les soirs. Dès ce soir, si tu veux, je pourrai toujours me repentir après. C'est Un vrai crime d'amour, un film de 1974, donc d'un Comencini au sommet de sa carrière, un film qui semble très actuel aujourd'hui quand on le revoit. Il faudrait peut-être le montrer à quelques députés et autres hommes d'État. Il y a question d'immigration, de religion et de laïcité, de racisme, de pénibilité au travail, bah oui ça existe, et de pollution industrielle, Entebbe.
Oui, c'est tout ça. C'est un film très politique. En même temps, c'est un mélodrame, un film d'amour extraordinaire, comme le titre l'indique. Et je pense que là, on voit les influences sur Comencini de deux choses qui l'ont marqué. Il y a le néo-réalisme du cinéma italien de sa jeunesse, et puis il y a son genre de film préféré lorsqu'il était cinéphile, qui est le réalisme poétique français. Carnet, Renoir, Prévert. C'est vrai que Un vrai crime d'amour est presque une sorte de condensé de d'un film néo-réaliste tourné en décor naturel et de quelque chose qui pourrait être Le jour se lève ou Le crime de Monsieur Lange où on tue le patron, voilà, et tout ça à travers ce que Comencini préférait dans le film, c'est-à-dire un portrait de femme extraordinaire qui vient de la Claudia Cardinal de La Ragazza, et il dit, Comencini disait, ce qui m'intéresse, c'est les filles du peuple qui sont ignorantes, qui sont incultes, qui ne savent rien mais qui comprennent tout. Et là, on rejoint en fait la prédilection de Comencini pour les personnages d'enfants, c'est-à-dire ceux qui ont une vitalité en eux, qui arrivent à comprendre le monde mais qui sont incompris.
Les deux grands enfants atroces, quelques mots sur Qui a tué le chat, cette comédie italienne féroce sur des propriétaires d'un immeuble qui essaient de le vider de ses locataires, un frère et une sœur qui doivent avoir 50 ans chacun, mais qui se comportent comme des petits enfants.
Oui, et alors là, c'était une sorte de microcosme de tout ce que Comencini déteste dans la société italienne. Il tire sur tout ce qui bouge. Enfin, l'intrigue est un petit peu absurde, mais pour tous ceux qui ont envie de voir Mariangela Melato cabotiner à mort, mais d'une manière très jubilatoire, ou Ugo Tognazzi avec des bigoudis, je conseille de voir ce film Qui a tué le chat.
Tebin, Un vrai crime d'amour et Qui a tué le chat, dont on entend la musique signée Ennio Morricone, sont en DVD chez Tamasa, et puis Les aventures de Pinocchio, toujours de Comencini, en DVD et pour la première fois en Blu-ray, c'est chez Le Pacte. Plan Large, c'est fini pour aujourd'hui, à la prise de son Alain Joubert. L'émission était préparée par Pascaline Bonnet et réalisée par Séverine Cassard. La semaine prochaine, Plan Large sur Arthur Penn, nous serons avec Franck Lubé, le programmateur de la Cinémathèque de Toulouse, qui consacre une rétrospective à partir de mardi prochain à l'auteur de Bonnie and Clyde et Little Big Man. D'ici là, vos programmes continuent sur France Culture. Dans un instant, Une vie, une œuvre, présentée par Christine Bernard.